RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique en partenariat avec RFI. Donc bonsoir Véronique Rigolet.
Bonsoir Roselyne.
Merci d'être là. Nous recevons ce soir Dominique de Villepin. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, vous êtes avocat et conférencier. Donc, le président Emmanuel Macron affronte aujourd'hui sa première fronde sociale avec des manifestations contre sa réforme du travail. On entend la droite avec, dans le fond, des remords de ne pas avoir fait ces réformes. Lorsque vous étiez Premier ministre, vous avez tenté le CPE, le contrat première embauche, mais les jeunes sont descendus dans la rue, vous avez dû renoncer. Et voici ce que vous disiez à l'époque, c'était en 2006.
J'ai voulu proposer une solution forte, parce que j'ai la conviction qu'au-delà de l'engagement nécessaire de l'État, seul un meilleur équilibre entre plus de souplesse pour l'employeur et plus de sécurité pour les salariés nous permettra de rompre avec le chômage dans notre pays. Cela n'a pas été compris par tous. Je le regrette.
Voilà la flexi-sécurité, dans le fond, c'est ce que vous vouliez faire, c'est ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron. À la différence de vous, parce qu'on vous a reproché pour le CPE d'être un peu monté sur le cheval sans l'avoir scellé, vous n'avez pas pris le temps de la concertation à l'époque. Est-ce que ça peut tout changer aujourd'hui d'avoir eu des mois de concertation avec les syndicats ?
Je crois que ce qui change tout, surtout, ce sont les circonstances. J'étais en fin du deuxième mandat de Jacques Chirac, contraint par le temps. Ça ne s'invente pas, vous savez, le temps, la durée pour réformer. Nous sommes là en début de mandat avec un mandat très clair donné par les Français dans le cadre de l'élection présidentielle. Donc les circonstances n'ont rien à voir. Et peut-être un peu plus que la rue, à l'époque, la difficulté, c'était la division de la majorité qui n'était pas favorable à cette réforme et qui a joué contre elle. Aujourd'hui, nous avons une majorité unie, soudée, pour avancer dans la voie des réformes. Donc, oui, il y a la possibilité de faire aujourd'hui ce qui était plus difficile hier. Il faut saisir cette opportunité. On voit bien, il y a des contestations. On va voir si cette contestation, elle grandit au fil des semaines. Mais les ordonnances passeront au Conseil des ministres d'ici quelques jours. Et la question se posera alors de l'application de ces ordonnances dans chaque branche et dans chaque entreprise, avec un dialogue social, vous l'avez dit, qui s'est longuement nourri dans la première partie du mandat, juste après l'élection, mais avec une séquence de réformes qui est lourde et qui est importante, parce que derrière la réforme du Code du travail, il y a, vous le savez, la réforme de l'assurance chômage, la réforme de la formation professionnelle, voire des retraites.
Cette réforme-là, Dominique de Villepin, cette réforme du travail, vous la soutenez, vous la reconnaissez, vous auriez pu en avoir la paternité.
Elle est nécessaire. Nous avons besoin de plus de flexibilité, de plus de souplesse en ce qui concerne notre réglementation. Et nous avons besoin en même temps de donner plus de protection, parce qu'il faut rassurer des Français qui sont parfois en grande souffrance et en grande difficulté dans notre pays. Donc il y a à combiner, trouver le juste équilibre, éviter l'agrégation des mécontentements, et puis éviter aussi la réforme formelle, parce que changer la loi ne règle pas tout. La loi, elle doit passer dans les mentalités. Ça demande du temps, ça demande de la pratique, ça demande de la concertation, sans doute parce que nous n'avons pas le même système que les Allemands, la cogestion au sein de l'entreprise, sera-ce plus difficile d'enraciner cette réforme au niveau de notre pays.
Donc on a du chemin à faire encore.
On a beaucoup de chemin à faire. Vous savez, la réforme ne se décrète jamais. Elle est toute d'application. La faire passer, c'est très important, mais après, il faut la faire vivre. La faire vivre, la développer, la nourrir, et faire en sorte que chacun puisse voir le bénéfice qu'il peut tirer. Et c'est en ça que la flexibilité doit s'accompagner de plus de sécurité et de protection, si l'on veut qu'elle réussisse.
Vous disiez tout à l'heure pour le CPE, vous donniez l'exemple du CPE, que vous n'étiez pas le premier ministre de Jacques Chirac. En revanche, Alain Juppé avait commencé sa réforme des régimes spéciaux. Hidalgo et, en quelque sorte, Chirac à Calais, devant la rue. Ça aurait pu être fait depuis longtemps, tout de même.
Vous savez, la réforme n'est jamais quelque chose dont on peut parler en laboratoire. C'est jamais théorique, la réforme. Dans un contexte...
En tout cas, elle a été tentée.
Oui, elle a été tentée. Mais
il a pas été jusqu'au bout.
Dans un contexte, pour Alain Juppé, d'extrême tension. Sur le plan économique, il y avait à l'époque une situation économique difficile. Là, nous sommes dans une phase de retour de la croissance en France, en Europe et dans le monde.
Donc il y a plus de chances de succès.
Et, évidemment, c'est tout à fait différent de réformer alors qu'il y a un peu d'huile, un peu de graisse, et quand il n'y en a pas. Deuxièmement, rappelez-vous, la majorité de l'époque, certains qualifiaient de putschiste, était une majorité difficile, héritée de 1993. Donc, nous sommes aujourd'hui, au contraire, ici, avec cette chance d'un début de mandat, d'une volonté des Français de faire différemment et d'engager un processus de réforme, il faut saisir cette chance. Rien ne serait pire que de gâcher cette chance, d'autant que cette chance, on le voit bien, c'est une chance de la réforme en France qui conditionne la refondation de l'Europe. Gardons en tête cette séquence. La mécanique est d'une extrême complexité et le timing est important. Il faut jusqu'aux élections allemandes mettre des bouchées doubles pour faire en sorte qu'il y ait une modernisation des structures de notre pays en matière économique, en matière sociale, pour donner une chance à l'Europe de se refonder, c'est-à-dire aussi de mieux protéger les Français. Il faut que les Français puissent regarder l'Europe différemment avec l'élection allemande, vraisemblablement d'Angela Merkel, et donc une capacité à agir ensemble au service des Européens, montrant que l'Europe, c'est pas seulement une construction lointaine, distante et inefficace.
Le premier acte de la réforme, on vient d'en parler, c'est la loi travail. Il y a plusieurs on va dire étages à la fusée. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, c'est la réforme de l'UNEDIC, de l'assurance chômage et celle de la formation. C'est la partie sécurité, la partie justice sociale, protection dont ont besoin les Français après le coup de bambou.
L'assurance chômage et la formation professionnelle, c'est évidemment essentiel. C'est délicat parce qu'il y a des milliards en jeu, en ce qui concerne la formation, et qu'il y a aussi derrière la répartition du pouvoir avec les syndicats. On touche aux prérogatives considérées comme importantes par un certain nombre de syndicats. Donc ces équilibres sont fragiles, il faut que on puisse le faire et que cela soit accepté par tous, mais c'est une des conditions. Pourquoi ? On voit bien qu'un des problèmes de la France tient à la faiblesse de notre économie par rapport à un certain nombre de pays voisins en ce qui concerne la qualité de nos filières, la qualité de nos produits. Nos produits ne sont pas aussi compétitifs que les produits allemands. Il faut donc élever, plus ça suppose deux choses, plus de formation pour avoir des employés et des salariés mieux formés et mieux capables d'apporter leur savoir-faire. Et ça suppose aussi un travail non seulement de qualification, mais un travail de mobilisation sur les bons créneaux, les bons secteurs, à travers une vraie politique d'aménagement du territoire. Donc ça implique de nombreux changements si l'on veut réussir.
Ouais. On parle là de la réforme elle-même et des réformes à venir. On sait que la réforme de l'UNEDIC, la réforme qui s'annonce compliquée, la formation professionnelle, tout ça, c'est pour janvier. D'ici là, on pourrait parler de ce premier test également pour le président sur comment il gère cette première contestation sociale. On sait qu'il est aujourd'hui à 7000 km de là, et c'est une autre séquence que nous commenterons après. Mais sur la forme, est-ce que l'emploi des mots, comme il a eu pour le moins clivant et qui ont fait couler beaucoup d'encre, ne vont pas peser sur l'instauration de ce climat que vous souhaitez pour que ces réformes se mettent en place. On va écouter le président avec ces mots à nouveau dont on entend parler, qui ont donné lieu même de mots d'ordre de la manifestation aujourd'hui. C'était à Athènes vendredi dernier, le président Macron.
Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir chaque jour la même détermination. Ne cédez rien, ni aux égoïstes, ni aux pessimistes, ni aux extrêmes.
Voilà, des mots pour le moins clivants. Est-ce que c'est de la simple maladresse ou est-ce que c'est là le fait d'une stratégie quelque peu élaborée, à savoir en radicalisant un peu le propos, on a une opposition qui vaut la peine ensuite, quand on va faire passer un texte par ordonnance, de dire « j'ai été le réformateur qui est allé au-delà des cris de la rue. Est-ce que vous y voyez quels signaux ?
C'est difficile à apprécier dans la mesure où c'est toujours plus difficile de réformer quand on n'a pas d'opposition structurée et organisée.
Donc faut la créer. Et
je crois qu'il faut désigner un adversaire et à partir de là prendre des forces rassemblées autour
donc
de soi.
Il clive à dessein.
Épuiser de l'énergie.
Ouais. Donc
de
c'est
ce point de vue-là, il y a deux écoles politiques. Il y a cette école qui veut nommer, désigner, citer par son nom ceux qui sont les fauteurs de troubles ou les éléments qui posent des problèmes, et puis il y a celle qui, au contraire, en permanence, vise à cicatriser, rassembler ne pas voir ceux qui posent problème. De ce point de vue, c'est vrai, il y a un risque qui est pris. Mmh. Ça rend encore plus nécessaire le besoin d'aller vite et le besoin de réussir. Et c'est pour cela que la séquence doit être vertueuse. Il faut réussir la réforme du droit du travail pour pouvoir, derrière, réussir celle de l'assurance chômage, de la formation professionnelle, puis celle des retraites. Il y a une dynamique qui doit s'enclencher. Il est évident que s'il y a un accident de parcours, ça complique toute la séquence et ça compromet la refondation européenne. Parce qu'au même moment, ne l'oublions pas, il y a le budget. 2018, qui n'est pas quelque chose de simple,
sur la table,
20 milliards à trouver,
d'économie.
Et qui fera, là encore, beaucoup de mécontentement. Le risque, et c'est une course de vitesse, c'est qu'il y ait une agrégation des mécontents qui, à un moment donné, vient compromettre la marche en avant.
Mais Dominique de Villepin, quand il parle de fainés, des fainéants, des cyniques, il dit avoir visé effectivement les politiques ou
les 15 dernières années. Hein.
Vous avez compris quoi ?
Je ne fais pas du tout d'analyse de ce genre. Ce que je constate, c'est que c'est un vieux réflexe de la politique française depuis le général de Gaulle.
Oui.
Les Français sont des veaux, qui visaient-ils ? Je crois que chacun fait sa propre analyse et en prend pour son grade.
Vous qui connaissez bien la vie politique française. Est-ce que, dans le fond, les politiques sont des feignants, des manques d'idées, ils ne travaillent pas assez, le travail intellectuel n'est pas le fait. On le voit aujourd'hui à droite, on le voit aussi au Parti Socialiste. Est-ce qu'il n'y a pas une feignantise intellectuelle pour ne finalement rien changer ? Est-ce que le problème en France, c'est de vouloir toujours refiler la patate chaude de la réforme à ses successeurs ?
Alors, ça peut être une tentation. Je crois, et de ce point de vue-là, en vieillissant, on devient un peu plus indulgent, je crois pour ma part que c'est parfois une erreur d'imaginer que les prédécesseurs n'ont rien fait ou n'ont rien voulu faire. La réalité est un peu plus complexe. C'est que souvent les circonstances ne s'y prêtent pas. Vous savez, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron est un chanceux. Et je crois qu'il faut que chacun puisse goûter, y compris lui, la chance qu'il a. Il a la chance de pouvoir aujourd'hui avoir tous les alignements favorables à la réforme. Ceci n'est pas arrivé depuis des décennies en France. On peut dire ce qu'on veut. Cette chance-là, elle a jamais été connue dans les 15 dernières années.
Oui, mais Napoléon demandait quand à ses généraux, est-ce que celui-ci a de la chance ?
Napoléon avait une grande chance, il avait des généraux et des maréchaux. Reste à Emmanuel Macron à faire émerger, à confirmer un certain nombre de talents. Il a besoin de ne pas être seul. La personnalisation du pouvoir comporte pour une démocratie de grands
risques. Et il a eu cette tentation-là ?
De facto, il a surgi de nulle part, personne ne l'attendait.
Les planètes étaient déjà aligné pour lui.
Non, mais c'est en ça que la chance est un élément sidérant de ce qui est en train de se passer
sur
la scène politique
française. Ça lui donne une plus grande responsabilité encore.
Son devoir est immense parce que personne ne comprendrait que l'échec soit au rendez-vous.
Mais quand il dit, par exemple, si on reprend l'interview au point, qui à mon avis sera quand même fondatrice du début de ce quinquennat, il dit « Je constate au passage que les forces du monde ancien sont toujours là, bien présentes et toujours engagées dans la bataille pour faire échouer la France ». Vous êtes d'accord
Il faut.
Vous l'avez vécu, ça vous l'avez ressenti. Je me souviens que vous étiez à un moment contre les fameux déclinistes. Vous aviez eu un coup de gueule contre
les déclinistes, contre les courtisans. Mais est-ce que ce monde ancien, il disparaît une fois pour toutes ? Je ne crois pas. Il y a des forces anciennes qui sont récurrentes. Et ce monde ancien, il ne va pas tout à coup se dissiper, même après trois années de la présidence Macron. Donc il faut savoir que ces forces, elles sont en permanence présentes. Il faut savoir les dissuader, les contourner. Et arriver à les apprivoiser le cas échéant. Donc je crois que c'est une question de stratégie politique, de savoir-faire politique. La Peut-être le plus grand atout d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est capable de tirer des leçons et de changer. On l'a vu.
Il corrige vite,
il s'adapte, ouais. Et il est pragmatique, y compris quand il dit « je ne parlerai pas à l'étranger de la situation française ». Et ben, quand ça s'impose à lui, il le fait. Donc voilà, à partir de là, cette capacité de métamorphose peut aussi être un atout. La vitesse avec laquelle on se change permet de faire face à des situations nouvelles, à des situations auxquelles on n'était pas préparé.
Est-ce qu'il apprend vite, tout simplement, ce qu'est la réalité? À l'étranger, il ne voulait pas parler politique française, c'est bon, il en parle maintenant. Depuis des mois, on cherche à l'interviewer. Il y a eu cette interview dans Le Point. Voilà, on attend et on nous promet, en tout cas à l'Élysée, une grande interview télévisée pour sans doute toucher un plus large public. Est-ce que vous pensez que dans le cadre de ces réformes et dans le train des réformes qui sont annoncées, il a intérêt à le faire maintenant et un peu vite pour créer ce rassemblement autour de son projet?
Je crois qu'on peut parfaitement conjuguer la verticalité, la présidence
jupitérienne,
ce qu'il disait au début, et en même temps une exigence de pédagogie et de proximité. Et je crois qu'à partir du moment où la réforme est engagée, compte tenu du fait qu'elle est difficile, qu'elle est complexe, cette réforme, elle est multiple, il faut effectivement faire en sorte que chaque Français puisse assimiler, comprendre là où on va. L'objectif doit être bien compris par chacun.
Alors, on va dire un mot de la furie d'Irma. Donc, Emmanuel Macron a mis 7000 kilomètres entre les manifs et lui aujourd'hui. Voilà, après la furie Irma, la polémique donc sur le manque de préparation des autorités, domine le débat aujourd'hui. On va l'écouter, il a réagi sur, dans le fond, ses critiques.
Le gouvernement, sous l'autorité du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, pour la cellule de crise avec l'ensemble de ses services. Le Premier ministre, coordonnant l'action de l'ensemble des ministres du gouvernement, a répondu dès que l'information a été donnée, donc plusieurs jours avant, et constamment tout au long de cette crise. Ce que nous avons mis en place depuis le début de la crise, depuis l'ouragan, c'est l'un des plus grands ponts aériens depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Alors voilà, il y aura sans doute une enquête parlementaire, parce que c'est facile sur ce plateau de dire est-ce que ça a été mal préparé, etc. Certains le disent. On a vu des polémiques politiciennes, pour le coup, aussi. Mais d'après vous, vous qui avez été aux manettes à Matignon, est-ce que quand même il y a eu une impréparation face... Est-ce que, dans le fond, on ne croyait pas tellement à cette force de cet ouragan et qu'il y a eu un peu de... Et on a minimisé un peu le...
Je crois qu'il faut éviter dans ce domaine les procès d'intention vains. Pourquoi ? Et les polémiques, surtout dans une période qui est encore la période de l'urgence. On voit bien la souffrance qui existe à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ce qui est certain, c'est qu'on pouvait prévoir, et un certain nombre de décisions de prévention ont été prises, mais on ne pouvait pas prévoir à ce niveau de catastrophe. Tout simplement parce que ça n'est jamais arrivé. Donc il faut prendre en compte le fait que ça a dépassé toutes les estimations. N'oublions pas que cet ouragan, il a changé de trajectoire et il a profondément été modifié en ampleur au fur et à mesure des jours qui sont passés. Donc prévenir une catastrophe de cette ampleur et de cette nature, exposer éventuellement des forces prédisposées au milieu d'un ouragan, aurait eu aussi un certain nombre de conséquences dangereuses.
Est-ce que vous liez ces super ouragans au réchauffement climatique de manière certaine, comme le fait le président Macron?
Le lien existe. On voit bien que le réchauffement de l'eau, puisqu'au départ un ouragan, ça part de l'Afrique occidentale, de Guinée équatoriale et du Sénégal, réchauffement, et en parallèle le réchauffement de l'atmosphère. Donc le lien existe, il appartient aux scientifiques de dire exactement dans quelle proportion, mais ce que nous savons, c'est qu'il y a une multiplication de ces catastrophes et qu'il y a par ailleurs une aggravation de ces catastrophes. Donc ça, c'est la réalité auquel nous devons nous adapter. Et il y a trois exercices qui sont essentiels. Le premier, c'est prévenir véritablement pour les prochaines années. Il est évident que pour l'avenir, des dispositions doivent être prises en ce qui concerne la Caraïbe française et d'autres régions du monde. Le deuxième élément important, c'est prendre en compte le fait qu'il s'agit là de sociétés vulnérables. Pour ceux qui aiment la Caraïbe, j'y ai grandi, la situation en Guadeloupe après les manifestations d'il y a quelques années reste une situation inquiétante. Comme en Guyane, on n'a pas réglé ces questions, il faut s'atteler à ces problèmes de fond. Il faut répondre à ces questions de population, avec parfois des questions difficiles. On le voit en ce qui concerne l'ouragan. Quel type de construction faut-il développer? Quel type d'activité touristique?
Quel type de coopération régionale également avec les États-Unis, sans
c'est
doute
évident. Ouais. On voit bien qu'à Saint-Martin, les Pays-Bas sont là, d'autres nations dans la Caraïbe. Il faut mutualiser les forces.
C'est la fin de cette première partie. On vous retrouve, Dominique Villepin, juste après un flash d'information.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique et notre invité Dominique de Villepin, ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères. On vient de parler des réformes de la politique française. On va parler là des défis du monde et puis bien évidemment celui du terrorisme, Véronique.
Il y a 16 ans, hein, c'était quasi jour pour jour, on est aujourd'hui le 12 septembre, les deux tours du World Trade Center s'effondraient, le monde effaré découvrait cet hyper-terrorisme comme une sorte de terrible réalité. 16 ans après, le monde, la France en particulier, est victime de Daesh, du terrorisme islamiste. Ma première question, c'est est-ce que c'est le même terrorisme qui a frappé il y a 16 ans, notamment à New York, et qui frappe aujourd'hui et qui menace notre civilisation ?
Non, le terrorisme n'a cessé d'évoluer et de changer. La principale caractéristique du terrorisme contemporain, c'est d'être opportuniste. Donc il s'adapte à des situations nouvelles. Mmh. Il s'adapte à des situations nouvelles dans les pays qui sont à l'origine du terrorisme, qui sont le plus souvent des États faillis. On le voit à l'Afghanistan, la Somalie, l'Irak, la Syrie, le Yémen, la Libye. Et aussi, il s'adapte à la situation des pays qu'il veut frapper, le plus souvent des pays musulmans, mais bien évidemment aussi des pays occidentaux et notamment européens.
Comment expliquer qu'en 16 ans, on n'ait pas progressé dans notre lutte contre le terrorisme ?
Alors, d'abord parce que nous avons commis,
à ce point si vulnérable.
Nous avons commis un certain nombre d'erreurs, outre le fait qu'il s'agit d'un fléau extrêmement complexe, d'un phénomène profond au sein des sociétés modernes, et donc d'un problème qui n'est pas facile d'éradiquer. Il ne suffit pas de simplement vouloir, ni même de mettre des moyens importants pour être efficace. Les erreurs que nous avons commises, nous les avons commises très tôt, dès l'Afghanistan. En se mobilisant en Afghanistan et en ne comprenant pas l'évolution de la situation afghane, nous sommes dans le fond enferrés dans ce pays et le terrorisme n'a cessé de se multiplier, de s'approfondir. Et puis surtout, nous nous sommes engagés, et au premier chef les États-Unis, dans une politique de changement de régime et une stratégie du tout militaire face au terrorisme qui évidemment n'est pas la bonne solution. Et donc le terrorisme s'est multiplié autour des États faillis, là où même nous avions voulu effectuer cette politique de changement de régime. Les deux grands exemples, c'est l'Irak d'un côté et la Libye de l'autre. Et à partir de là, le terrorisme...
Et il a muté aussi dans son modus operandi, bien évidemment. Mais Emmanuel Macron affirme que, il disait ça justement dans l'interview du Point, que le Qatar et l'Arabie Saoudite ont financé des groupes qui ont contribué au terrorisme. C'est la première fois qu'un président de la République allait si loin dans cette dénonciation. Personne ne l'avait dit publiquement avant. Est-ce que ça a le mérite de la franchise ? Est-ce qu'il a eu raison ?
Mais il est toujours important de dire les choses, surtout ce qui concerne le terrorisme. Il faut savoir là où sont les problèmes et là où nous devons nous mobiliser. Dire qu'au sein des sociétés du Golfe, il y a un certain nombre de soutiens au terrorisme, c'est essayer de mobiliser à travers des coopérations à adéquate. Et aujourd'hui, il y a une volonté, tant en Arabie Saoudite qu'au Qatar et dans d'autres pays, de faire mieux. Ouais. Donc, profitons de cette situation pour avancer avec l'ensemble de ces États dans des coopérations renforcées et plus efficaces.
Mais le fait de se démarquer de ses prédécesseurs comme Nicolas Sarkozy ou François Hollande, qui avait plutôt, qui regardait plutôt du côté des monarchies du Golfe, donc aussi des États-Unis, le président actuel est moins hostile à l'Iran, même s'il tient à la sécurité d'Israël. Est-ce que vous notez cette inflexion? Est-ce que c'est quelque chose d'important aujourd'hui, ce qu'il a, il l'a nié notamment au discours devant les ambassadeurs?
Le président de la République, il prend en compte le fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation de grand danger sur la scène internationale à travers un certain nombre de zones. C'est vrai en Asie, on le voit avec la crise de la Corée du Nord, c'est vrai au Moyen-Orient, à travers la question du terrorisme, mais aussi la question de la reconstruction de l'Irak, de la Syrie, comme en Afrique avec la question de la Libye et du Sahel. Ces crises, à tout moment, elles peuvent s'enflammer. Et vous avez raison de mentionner la relation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est l'un des grands défis de la politique et de la diplomatie pour les prochaines années. Comment faire en sorte que cet affrontement programmé ne dégénère pas, et comment faire en sorte de transformer cette énergie négative en quelque chose qui soit mise au service des peuples de cette région? Nous ne réussirons pas dans la lutte contre le terrorisme si nous n'empêchons pas cette escalade entre les États du Golfe d'un côté, on voit la crise qui existe aujourd'hui.
Prise en compte entre la guerre civile entre les chiites et les sunnites.
Absolument, mais même au sein des sunnites, on voit bien le conflit ou le différend qui s'approfondit entre les Émirats, l'Arabie Saoudite et le Qatar de l'autre côté. Donc, la diplomatie, c'est d'essayer de multiplier les ponts. On voit que les Américains, et la visite de Trump en Arabie Saoudite, de ce point de vue-là, a été claire, a choisi plutôt un camp contre un autre. La diplomatie française, qui a de bonnes relations avec tout le monde, elle doit au contraire essayer d'établir des ponts, d'établir des dialogues, faire travailler ensemble ces États pour la reconstruction de cette région. Il y a deux défis immédiats. Il y a l'Irak, et il y a la Syrie. Et puis il y a un problème qui se pose majeur, parce qu'il peut être la source de nouvelles formes de terrorisme, c'est le Yémen, où l'Arabie Saoudite et les États du Golfe sont aujourd'hui en guerre. Nous devons faire en sorte de contribuer à une désescalade. L'initiative que nous avons prise, c'est une première initiative d'un groupe de contact sur la Syrie, rassemblant les cinq États du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, même type de format que ce qui avait existé pour l'Iran, est une bonne initiative. On va voir dans quelques jours, à l'Assemblée générale des Nations unies, la première réunion de ce format. Quel doit être le bon format pour agir? Quels sont les pays de la région qu'il faut associer? Est-ce qu'on peut se permettre de tenir à l'écart l'Iran de la recherche d'une solution? Je ne le crois pas, pour ma part. Et quel est le mandat qu'on doit confier? On voit bien que toutes les enceintes qui aujourd'hui traitent de la question de la transition politique en Syrie, bien font face à des difficultés. C'est vrai à Astana pour la désescalade militaire, c'est vrai à Genève. Il faut donc avancer et modifier l'équation sur le terrain. À quoi servirait, et c'est le défi d'aujourd'hui, d'éradiquer temporairement le califat en Syrie et en Irak, si nous ne parvenons pas à apporter une réponse politique en transformant des États faillis, l'Irak et la Syrie, en des États capables de répondre aux problèmes de la population? Ça pose notamment la question du traitement des tribus sunnites dans cette région du monde.
Est-ce que ça oblige la France à avoir des positions radicales, parfois dans des dossiers compliqués, en tout cas des positions solides sur ces dossiers? On écoutera avec grand intérêt le discours du président à l'Assemblée générale des Nations unies le 20. On se souvient, dans une autre époque, c'était en 2003, le 14 février, par votre voix, la France s'était fait entendre au reste du monde. On vous écoute.
Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs.
Voilà la voix de la France, hein, c'était en 2003, elle est entendue en Europe, dans le monde entier. Dans les propos que vous venez de prononcer là, j'imagine qu'aujourd'hui vous n'en reniez aucun. Est-ce qu'ils doivent inspirer aujourd'hui l'action diplomatique française et pourquoi pas le futur discours du président à nouveau le 20 septembre? Est-ce qu'on est toujours dans ce cadre-là?
C'est la vocation de la France, la tradition française que j'exprimais. La France, pays de médiation, pays travaillant au service d'idéal, de paix, de justice, de sécurité.
Vous sentez cette fibre?
Je crois qu'il y a la volonté de faire vivre ces idéaux. Le président l'a rappelé dans sa conférence devant les ambassadeurs. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à retrouver la voie d'un pays de médiation, d'un pays qui est capable de parler à tout le monde. C'est un objectif absolument nécessaire si on veut être efficace dans la gestion des crises et qui est capable de faire avancer le règlement des crises sans heurter ni les uns ni les autres. C'est-à-dire garder cette capacité à agir. On le voit bien aujourd'hui en Corée du Nord. Nous ne sommes pas traditionnellement un pays qui a des relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Néanmoins, nous sommes signataires de l'accord d'armistice de Panmunjom en 1953. Il y avait un bataillon français sur place. Et nous avons la possibilité, entre la Chine, les États-Unis, la Corée du Nord, la Corée du Sud, de faire valoir un certain nombre d'arguments, ce que nous faisons au Conseil de sécurité. Le vote aujourd'hui d'une résolution au Conseil de sécurité à l'unanimité en est un élément. Donc oui, la France peut discrètement, parfois plus ouvertement, se mettre en avant pour faire avancer certains dossiers.
À propos, comment vous jugez les premiers pas du président Macron sur cette scène diplomatique? On l'a vu parler de manière très proche avec le président Trump, qu'il a reçu à Paris, avec Vladimir Poutine, qu'il a reçu à Versailles. C'est les bonnes bases de cette diplomatie.
Il y a à la fois, ce sont de bonnes bases, à la fois parce qu'il y a l'ambition d'un retour de la France sur la scène internationale, et il y a la volonté de parler à tout le monde. Et je pense que vis-à-vis des grands, que ce soit vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de Moscou, comme vis-à-vis de la Chine, il y a des signaux importants qui ont été adressés et qui doivent permettre à la France d'agir. Nous serons évidemment plus efficaces et plus crédibles si nous réussissons à enclencher la refondation de l'Europe au lendemain de l'élection allemande avec Angela Merkel, pour faire non seulement de la France, mais de l'Europe, un vrai pôle de stabilité. Nous avons à nos portes, du côté de la mer Méditerranée, d'immenses défis à relever. Nous devons apprendre à être plus efficaces, à agir ensemble de concert, sans même parler des problèmes européens et des défis européens. Les démocraties illibérales qui se multiplient du côté de l'Europe de l'Est, la Pologne, la Hongrie, autant de défis qu'il faut savoir relever.
On va dire, bien sûr, on va parler de la Corée, mais une dernière question sur le sujet. Le président Macron veut refaire de la France une grande puissance. Il l'a dit plusieurs fois, il l'avait dit à Versailles, les journalistes ou certains observateurs considéraient que c'était un peu du blabla. Il veut retrouver de la fierté, de l'héroïsme, il veut que la France redevienne en quelque sorte prétentieuse, qu'elle éclaire comme elle a éclairé à un moment les lumières. Ça peut effectivement paraître prétentieux, mais d'un autre côté, c'est le fameux en même temps, il dit qu'il y a une crise de l'Occident et que l'Occident s'est perdu dans l'interventionnisme moral intempestif au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe? De vouloir être dans la grandeur et à la fois de s'effacer un peu et ne pas trop intervenir.
Il y a un équilibre à trouver, mais est-ce que c'est être prétentieux que d'être soi-même? La vocation de la France, la vocation de la France historiquement, c'est de mettre en place une diplomatie à la fois d'initiative, de mouvement et d'équilibre. C'est ça la diplomatie française, la tradition diplomatique française. Donc je crois qu'il faut l'assumer. On en a besoin aujourd'hui. Nous sommes dans un monde mondialisé qui court de grands dangers. Donc est à la fois une conscience, on le voit sur les questions d'environnement, la COP21, un certain nombre de grands sujets. Oui, il a raison. Toute la question, c'est de mettre en place la mécanique diplomatique qui peut effectivement, non pas mouliner à vide ou faire de belles paroles, mais qui peut enclencher des processus. C'est ce qu'il faut faire au Proche-Orient. Et de ce point de vue-là, nous avons une responsabilité avec l'Iran et avec l'Arabie Saoudite. Il faut le faire en Asie, où il y a de grands défis. On le voit en mer de Chine du Sud, on le voit avec le dossier de la prolifération en Corée du Nord. Et il faut aussi être conscient qu'il y a des angles morts de la société internationale. Et de ce point de vue-là, nous devons être ceux qui, là, montrent du doigt. Il ne s'agit pas de se faire plaisir. J'en prends trois exemples très rapidement. Le problème des dictatures, il y a une montée des régimes autoritaires à travers le monde. C'est un problème. Oui. Que fait-on vis-à-vis de la Turquie? Que fait-on vis-à-vis de la Pologne,
du Venezuela?
Première question. Il y a un deuxième problème. Que fait-on devant les menaces de génocide? La question des Rohingyas en Birmanie, la question de la Centrafrique. On n'a pas réglé ces questions. Moi, j'ai
j'étais aux premières loges dans l'affaire rwandaise. Et croyez-moi, c'est une brûlure qui me reste extrêmement à vif. Comment fait-on devant ces crises pour que la communauté internationale soit à la hauteur des enjeux? Et il y a un troisième angle mort, c'est les questions de prolifération. Moi, j'avais engagé cette bataille en 2003 sur l'Irak, mais surtout sur l'Iran, puisque nous avons initié, oui, nous, la France, les premières négociations pour ramener l'Iran à la table de négociation, avec en tête la question de la Corée du Nord, déjà.
Alors justement, la Corée du Nord, donc le Conseil de sécurité de l'ONU a voté donc à l'unanimité de nouvelles sanctions contre donc ce pays, en réaction au sixième essai nucléaire. La résolution prévoit une suspension des exportations textiles de la Corée du Nord. Elle impose un plafond aux importations de pétrole brut. Mais est-ce que c'est pas un peu des sanctionnettes, la véritable sanction? Est-ce que ça n'aurait pas été l'embargo sur le pétrole?
Alors, on peut toujours, en matière de sanctions, aller plus loin. La preuve, c'est le huitième paquet de sanctions depuis 2006. Oui, donc, on a multiplié un train de sanctions après l'autre. La vraie question, c'est de ne pas en rester là. Une fois de plus, utiliser le bâton en matière internationale, ça ne mène nulle part. Le seul intérêt d'une politique de sanctions, c'est de pouvoir enclencher quelque chose d'autre. Et ça pose la question de la carotte. Quel dialogue, quelle négociation, comment fait-on pour arriver à sortir de ce bourbier qui est un État qui a franchi le seuil nucléaire, qui aujourd'hui est doté, qui est sans doute à la veille d'avoir une capacité d'emploi.
Mais c'est son assurance-vie, la dissuasion.
Bien sûr. Mais justement, comment fait-on pour maîtriser, encadrer la Corée du Nord, aujourd'hui pays ayant franchi le seuil nucléaire? Ça ne peut se faire que par la négociation. Il y a un pays. Il faut toujours, en matière diplomatique, s'appuyer sur l'État le plus capable, le mieux placé. Il y a un pays qui a encore du crédit vis-à-vis de la Corée du Nord, même si, au fil des sanctions, elle a pris un certain nombre de coups. C'est la Chine. Donc il faut s'appuyer sur la Chine, qui elle-même a un certain nombre de lignes rouges sur ce dossier. La Chine ne veut pas d'un changement de régime en Corée du Nord, ce serait déstabilisant pour la sécurité régionale. Elle ne veut pas d'une réunification entre le Nord et le Sud, et elle ne veut pas de troupes américaines au nord du 38e parallèle. Il faut prendre en compte cela. Il se trouve qu'il y a un mécanisme. Alors certains discutent de la fiabilité de ce mécanisme qui est sur la table, qui est une proposition et des Russes qui sont concernés, et des Chinois, qui est le double gel. On gèle d'un côté le programme balistique et le programme nucléaire nord-coréen, et de l'autre côté, on gèle les manœuvres américaines et sud-coréennes.
En Corée du Sud,
c'est le début.
Mais, les Américains vont accepter ça?
Alors,
ça,
c'est une affaire. Les Américains ont changé de ton dans cette affaire. Ils ont complètement changé de ton.
Et le feu et la fureur, c'est fini.
Il y a quelques temps, nous avions des tweets incendiaires. Oui. Aujourd'hui, nous avons les États-Unis qui, pour faire passer leur résolution, et à mon sens, ils ont bien fait, ont accepté de mettre de l'eau dans leur vin. Il faut non pas, à partir de là, s'asseoir et attendre, ce serait irresponsable et criminel, il faut au contraire agir. Et de ce point de vue-là, la France a un rôle à jouer. Eh bien, la France, elle est bien, c'est tout l'intérêt de recevoir le 14 juillet un chef d'État comme M. Trump et de gagner la confiance d'un président américain incertain, de parler avec la Russie ou de parler avec la Chine, c'est de pouvoir travailler avec eux. La France peut faire progresser un certain nombre d'idées, et notamment la reprise d'un dialogue, de façon à permettre à restabiliser cette région. Nous avons la chance d'avoir en Corée du Sud le président Moon, qui, lui, est soucieux aussi du dialogue. De ce point de vue-là, il est sur une position différente du Japon, sachant qu'il y a une autre question très déstabilisante pour cette région, c'est le déploiement américain du système THAAD en Corée, qui est très mal vu par la Russie et très mal vu par l'Asie. Donc il faut amorcer ce dialogue, je crois qu'on a des outils pour le faire, et il faut donner de la profondeur à cette discussion. Pourquoi pas mettre sur la table à un moment ou à un autre la question de la ligne de démarcation entre les deux Corées? La réunification aujourd'hui n'a pas de sens compte tenu de la situation géopolitique et du différentiel entre les deux États. Par contre, fortifier l'idée d'une ligne de démarcation et d'une frontière pour stabiliser les choses, répondre aux peurs de la Corée du Nord. Deuxièmement, poser la question éventuelle à terme d'une conférence sur la sécurité en Asie, ça répondrait à un certain nombre de préoccupations des uns et des autres.
Dernière petite question assez courte, parce qu'il reste peu de temps, le Venezuela, est-ce que ça vous effraie ce qui se passe là-bas? 120 morts, le Parlement, plus de Parlement, l'oppression de la presse
quand on voit la dérive et la dégradation de la situation, quand on voit surtout la souffrance de la population, oui, on ne peut pas ne pas être inquiet sur ce qui se passe au Venezuela.
Et vous dites que ce n'est pas une dictature, je vous ai entendu dire ça.
Je dis qu'il y a une dérive autoritaire parce qu'il Non mais, vous savez...
Vous jouez sur les mots.
Très autoritaire.
Non mais, tout l'art de la diplomatie consiste à régler les problèmes...
D'être assez diplomate.
Et éviter de les aggraver. Ah. Donc, en l'occurrence, on a besoin et du président et du gouvernement et de l'opposition. Le gouvernement et le président n'ont pas toute la vérité, bien évidemment, on le voit bien à travers un certain nombre d'actes tout à fait reprochables, et l'opposition, elle est composite et pour une certaine part irresponsable, à la fois très proche des oligarchies, trop proche des États-Unis, alors même que le chavisme a ancré au sein de la population vénézuélienne de très profondes réticences vis-à-vis des États-Unis. On a une chance aujourd'hui, il y a une prise de conscience de part et d'autre de la nécessité de sortir le pays du bourbier dans lequel il est. Il y a des discussions qui commencent avec Saint-Domingue, de part et d'autre de l'opposition et du gouvernement, on pourrait accepter un certain nombre de pays qui seraient les parrains d'une discussion et d'une négociation, des pays comme le Chili, des pays comme le Mexique et d'autres. Essayons d'accompagner la France avec l'Espagne. José Luis Zapatero joue un rôle dans ce domaine, avec le Portugal, avec la Grèce, peut accompagner ce dialogue et cette négociation.
Merci beaucoup Dominique de Villepin d'avoir été notre invité. Merci beaucoup Véronique Rigolet. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre édition de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Merci à tous.